Radio Kapi.
Le journal en français, Belinda Bosuma.
Kinshasa abrite pour 30 jours les travaux de révision du règlement minier. Ils font suite à la promulgation du code minier par le président Kabila. Parmi les participants figurent les 7 miniers qui ont claqué la porte à la FEC. Des nouveaux corps en décomposition découverts vers le lac Albert en Ituri. La MONUSCO a aussi récupéré des personnes cachées depuis plusieurs jours dans la forêt de Djo. C'était lors d'une opération onusienne, rapportent les élus de Djougou. Et puis, plus de 110 habitations écroulées dans le territoire de Kailo, Maniema, en cause des pluies torrentielles de ces derniers jours. L'élu de Kailo, Corneille Bouchirui, lance un SOS notamment aux autorités du pays en faveur des sinistrés. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part de Kinshasa avec l'ouverture aujourd'hui des travaux de révision du règlement minier. La cérémonie a été présidée par le ministre des Mines, Martin Kabouiloulou. Ces travaux qui prendront 30 jours, dit le ministre, réunissent les miniers, les experts du gouvernement en matière des mines, la Fédération des entreprises du Congo et des organisations de la société civile. Le compte-rendu de Paul Matendo.
Selon Martin Kabouiloulou, ces travaux font suite à la promulgation de la loi portant code minier par le chef de l'État, Joseph Kabila. Il appelle toutes les parties prenantes à travailler dans la sérénité et la convivialité.
Tout en vous invitant à l'observance de l'éthique professionnelle, au devoir de réserve, de l'intégrité et à la dignité, je formule le vœu de voir les travaux se dérouler dans un climat de cordialité et de convivialité, quels que soient les intérêts qui pourraient guider les différentes parties prenantes.
Les industriels présents au lancement de ces travaux ont soulevé à l'intention du ministre leurs préoccupations essentiellement liées à la fiscalité et à la clause de stabilité. Du côté de la société civile, Georges Bokungu, de l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe, demande au gouvernement de rapidement publier le code minier dans le journal officiel.
Que ce n'est pas normal que le code minier soit publié depuis le 9 et qu'aujourd'hui l'argent n'est pas encore mis en... C'est la loi qui est très importante et que les débats aujourd'hui autour de ça, ça ne devait pas se faire sans les documents officiels. Pendant les travaux, on espère que le gouvernement va mettre des moyens pour que la loi soit imprimée.
Petite précision, parmi les industriels figure le groupe de 7 miniers qui a claqué la porte à la Fédération des entreprises du Congo.
Entre-temps, à Kisangani, le ministère provincial des Mines s'engage d'assainir le secteur minier artisanal dans la province de la Tchopo. Un atelier relatif a été organisé mercredi avec tous les acteurs intéressés. Mais pourquoi assainir ce secteur, Dorcas Kankou?
L'organisateur estime que cette séance de travail augure une série de mécanismes d'assainissement du secteur minier par des mesures qui seront courageusement prises à l'issue de ces assises. Ces mesures vont permettre une forte performance dans la mobilisation et la maximisation de recettes de la province. Cyprien Eribaraka, ministre provincial de Mines, explique que tout est parti d'un constat malheureux à l'issue d'une mission récente sur terrain.
J'ai constaté quelques faits malheureux, ce qui a fait en sorte que nous puissions appeler tous les intervenants dans le secteur de l'administration des mines, aussi de pouvoir procéder, si possible, à la permutation des agents des mines. L'administration minière au niveau de la province tâtonne dans ses responsabilités. Et c'est ce qui est grave.
Les innovations qu'apporte la nouvelle loi modifiant et complétant le code minier a également été présentée à l'assistance par le directeur du cabinet du ministre. Ce texte exige notamment la signature d'un cahier des charges entre les entreprises minières et la communauté. En outre, les artisanaux doivent être affiliés à une coopérative minière. Certaines prérogatives du gouverneur de province et de chef de division sont remises maintenant au ministre provincial, a souligné le directeur du cabinet du ministre. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
À propos de la construction du port en eau profonde au large de la cité de Banana au Congo central, notez la signature aujourd'hui à Kinshasa de la convention entre la RDC et les Émirats arabes unis à travers la firme DP World. Une signature entre, d'une part, un panel des membres du gouvernement, à savoir le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, ainsi que les ministères du portefeuille, du budget et des finances, et d'autre part, le chairman de DP World, le sultan Ahmed bin Souleymane. Cette convention ainsi conclue, ouvre la voie à la concrétisation de l'ouvrage. Explication Jacques-Yves Molima.
La République démocratique du Congo a attendu plus de 150 ans, faute de financement, pour voir enfin ce projet commencer à être une réalité, a souligné dans son speech le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications. Cela grâce à DP World et José Makila Soumanda de circonscrire à cet effet.
DP World est le troisième exploitant portuaire mondial. Son approche logistique globale correspond exactement à la vision du gouvernement pour le développement du secteur logistique.
En signant cette convention pour sa part, le chairman de DP World, Ahmed Bin Sulayem, n'a pas manqué de souligner l'importance que rêvent ces projets en Afrique.
Nous allons positionner en fait le port de Banana non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc le Congo deviendra un acteur majeur dans le commerce en Afrique de l'Ouest et un centre maritime important pour l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes fiers de cette opportunité et nous pouvons nous assurer que nous sommes prêts à faire de ce projet un succès pour la République démocratique du Congo.
Il ne reste plus que la pose de la première pierre qui devrait intervenir incessamment pour voir sortir de l'océan le port en eau profonde des Banana en République démocratique du Congo.
Entre-temps, la société civile de l'Équateur dans sa globalité s'indigne des démarches entreprises au niveau national et international sur les ressources de la province sans implication de la base. Il s'agit notamment de la question relative aux quatre tourbières récemment découvertes dans l'Équateur et qui ont fait l'objet d'une rencontre cette semaine au Congo-Brazzaville, mais aussi du transfert des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad. Tous les délégués des tendances confondues réunis hier à Mbandaka ont décrié cette marginalisation de la population. Leur déclaration commune a été lue par Barnabé Bongambo, vice-président du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur. Il est au micro de Paul-Richard Malengela.
La société civile de l'Équateur, toutes tendances confondues, s'oppose énergiquement au transfert des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad, avec les risques évidents de perturber les écosystèmes et la vie des populations riveraines tant au niveau du Grand Équateur que de toute la RDC. 2. La société civile s'oppose catégoriquement à la mise en œuvre d'un quelconque projet de protection des tourbières sans contrepartie préalable au profit des communautés locales. Elle s'indigne que ces dossiers soient traités à l'extérieur de l'Équateur et de la RDC sans consentement libre, informé et préalable et la participation des populations concernées. La société civile s'engage donc à entreprendre des actions qui empêcheraient la mise en œuvre de ce type de projet.
Cette déclaration survient après celle faite dans le même sens par la société civile du Nord et du Sud Ubangi, ainsi que par l'Observatoire citoyen de l'environnement. Direction l'Ituri, une opération aéroportée des casques bleus de la MONUSCO a réussi à récupérer hier soir 7 personnes, dont une femme qui s'était cachée depuis environ 2 semaines dans la forêt de Djo au bord du lac Albert en collectivité de Baïma Nord. Ces personnes avaient fui les attaques meurtrières des assaillants présents dans cette région située en territoire de Djougou. Cette révélation a été faite aujourd'hui à Bounia par les élus de Djougou sur base des informations du chef de cette entité coutumière. Par la même occasion, indique ces élus, les casques bleus de la MONUSCO ont découvert 8 corps sans vie en pleine décomposition dans la brousse. Delvin Waïssala.
Les élus d'Njougou qui se réfèrent au rapport du chef de Baïma Nord de ce matin expliquent que c'est dans l'avant-midi d'hier qu'un hélicoptère de la MONUSCO a décollé d'Elita dans cette collectivité pour atterrir dans la zone où ces personnes s'étaient cachées. Et c'est le chef de groupement Los Andrema qui était dans l'hélicoptère qui a servi de guide sur terrain. Madame Angèle Tabou, élue d'Njougou, rapporte les propos du chef de Baïma Nord.
Voici ce qu'il m'a communiqué. Il dit qu'il y a la force de MONUSCO sur place à Jean présentement. Ils ont ouvert 16 personnes qui continuaient de se cacher dans la brousse et qui ont découvert plusieurs corps en décomposition avancée.
Certaines sources précisent que les assaillants avaient saccagé les installations de la compagnie Vodacom à Djou et cette compagnie n'a pas encore donné sa version des faits. Bounia, Delvey, Waïssala, Radio Capi.
Pendant ce temps, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu aujourd'hui une conférence de presse sur le rapport thématique intitulé « Recours illégal et disproportionné à la force lors des manifestations publiques en RDC, janvier 2017, janvier 2018 ». À cette occasion, le directeur du Bureau conjoint a fait allusion à la mesure du gouvernement congolais portant sur la levée de la mesure d'interdiction des manifestations publiques au pays, mesure annoncée par la ministre des Droits humains au cours de la 34e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Écoutez le directeur du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, Abdulaziz Dioye, dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali.
La ministre a fait une annonce qui vous a peut-être échappé, et c'est pas normal en tant que journaliste, je vous le dis. La ministre a fait devant la tribune du Conseil des droits de l'homme, l'annonce qu'il y avait une mesure, la levée de la mesure d'interdiction des manifestations. Le gouvernement a annoncé, devant le Conseil des droits de l'homme, devant les représentants de la communauté internationale, que la mesure a été prise de lever l'interdiction des manifestations publiques. Quelle est la réaction du Conseil? C'est de dire, c'est une bonne nouvelle. Nous nous réjouissons qu'une telle mesure ait été prise. Évidemment, votre travail, ce serait en tant que journaliste d'aller vérifier où est le document qui lève de lever de la mesure d'interdiction. C'est ça. Mais on s'en réjouit. Voilà.
Contacter la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, dit ne pas être disposée pour le moment à répondre à nos questions à ce sujet. Je vous le disais en titre, des pluies torrentielles de ces derniers jours dans le Maniema ont laissé d'innombrables dégâts dans certains villages du territoire de Kailo, le cas des villages Lubangwana, Lubelenge et Penge. À 26 km de Kindu, on a dénombré plus de 110 maisons d'habitation et quelques édifices publics tels les écoles et les églises. Le député Corneille Bouchiri, élu de Kailo, qui le rapporte, lance un cri d'alarme aux autorités du pays, aux humanitaires et à toute bonne volonté de bien vouloir penser à venir en aide aux populations sinistrées. Corneille Bouchiri au téléphone de Mathieu Ilunga.
Vous savez que jusqu'à l'heure qu'il est à Lubangwana, vers le fond de Lubelenge, il y a 28 maisons qui se sont écroulées, mais vers 26 km sur la route Kibombo, il y en a déjà 85 maisons qui sont écroulées. C'est pour cela que la population nous contacte pour demander à ce que nous puissions canaliser leur cri d'alarme par rapport à ces désastres. Vous savez que la population est protégée par l'État et les humanitaires sont là pour les catastrophes naturelles de ce genre. Les maisons de nos habitants de ces coins-là sont ce qu'elles sont. Alors c'est comme ça que chaque fois qu'il y a des pluies, les eaux stagnent et ça entame les fondations de ces maisons qui sont en pisé ou en briques à d'aube et les maisons s'écroulent. Donc je sollicite l'implication des médias afin que ce message, cette information soit relayée auprès de tous ceux qui peuvent de près ou de loin venir en aide à cette pauvre population dont les gens commencent à passer la nuit à la belle étoile. Donc, ceux qui peuvent les aider puissent penser à comment ils peuvent reconstruire ces maisons et comment ils peuvent trouver l'abri pendant qu'ils seront en train de construire ces maisons. Ils peuvent aussi être initiés sur la canalisation de ces eaux parce que souvent, c'est le problème des canalisations la cause majeure de ces dégâts.
Journée mondiale de l'eau, c'était hier 22 mars. À Kalemie, dans le Tanganyika, les acteurs humanitaires intervenant dans le domaine de l'eau et assainissement se sont mobilisés dans une campagne de sensibilisation. Objectif, amener la communauté à l'utilisation de l'eau potable. Occasion pour le chef de division de l'enseignement de lancer un appel à alimenter l'eau potable dans les écoles. La mobilisation a reçu un appui financier de l'UNICEF. François-Xavier Mibé, reportage.
L'appel du chef de la division provinciale à l'enseignement pour l'alimentation de l'eau potable dans des écoles est intervenu au point de chute de la caravane motorisée. Une caravane partie du siège du ministère provincial de l'Intérieur, sillonnant l'artère principale Lumumba, atteignant le quartier Sitira pour aboutir à l'école primaire Réema sur la rive droite de la Lukuga. Le ministre provincial de la Santé a présidé l'activité qui a connu une forte mobilisation des acteurs intervenant dans les domaines de l'eau et assainissement. Le ministre a visité dans un premier temps le réseau de la Régie des eaux qui fournit l'eau potable à la ville. Une société bien engagée dans la lutte contre le choléra dans la zone. Une maladie qui affecte 8 des 11 zones de santé organisées au Tanganyika. Cyril Kipu-Awel Mukalai n'a pas manqué non plus de réagir à l'appel du chef de la division provinciale de l'enseignement.
Nous avons suivi avec intérêt Madame le Prophète qui a parlé de manque de robinets dans nos différentes écoles. Nous devons travailler et avec les responsables des écoles et avec la Régie des eaux afin que toutes les écoles de notre province et accès à l'eau et aux toilettes communes.
Kalemi, François Diabemibe, Radio Kapi.
Dans l'actualité, notez aussi l'installation hier à Lubumbashi du cadre de concertation dénommé Jean Réélection. Il est mis à la disposition des potentielles candidates aux prochaines élections pour le partage d'expériences en vue d'améliorer le score des femmes au scrutin à venir. Une initiative prise lors d'un atelier de formation organisé par la CENI en collaboration avec la MONUSCO, le PNUD et l'ONU Femmes. À l'issue de cette formation, plusieurs recommandations ont été faites, notamment à la CENI. Rose Chakwiza, une participante, en parle au micro de Madeleine Wai.
À la CENI, d'appuyer et de redynamiser le cadre de concertation du genre et élections, ONU Femmes, la MONUSCO, le PNUD, nous recommandons d'assurer l'accompagnement des femmes candidates durant le processus électoral, de prendre les mesures de sécurité de la femme candidate pendant la période de la campagne électorale jusqu'au jour des scrutins. Au gouvernement national et parlement de revoir le seuil légal de représentativité ainsi que la caution à payer pour les dépôts de candidatures féminines. Aux femmes de mettre en application toutes ces stratégies reçues en ce lieu et de restituer le plus tôt possible cet atelier à la base.
Actualité Afrique Monde.
Donald Trump a décidé d'exempter plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis des taxes sur l'acier et l'aluminium qui entrent en vigueur aujourd'hui jusqu'au 1er mai prochain. L'Union européenne, mais aussi l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Mexique et la Corée du Sud sont concernés. Cette décision du président américain est contenue dans un communiqué publié hier par la Maison Blanche. L'avocat de Nicolas Sarkozy va faire appel du contrôle judiciaire imposé à l'ancien président français mis en examen mercredi dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. Ce contrôle judiciaire lui interdit notamment de rencontrer les protagonistes du dossier. Ce contrôle est une première pour un ex-chef de l'État sous la 5e République. Les juges d'instruction du parquet national financier ont décidé de contraindre Nicolas Sarkozy. Ils lui interdisent de rencontrer 9 protagonistes du dossier, dont 2 très proches. Il lui est aussi interdit de se rendre notamment en Libye. Et en Corée du Sud, un tribunal de Séoul a émis un mandat d'arrêt contre l'ancien président Lee Myung-bak, accusé de détournement, d'évasion fiscale et de corruption. Lee Myung-bak, 76 ans, a dirigé l'État sud-coréen de 2008 à 2013. Conservateur, ancien directeur du conglomérat Hyundai Construction, il a aussi été maire de Séoul. Il rejoint en prison sa successeuse à la tête de l'État en détention provisoire depuis un an dans le cadre d'un autre scandale de corruption.